À quoi comparons-nous le royaume de Dieu numéro 11 les ouvriers embauchés à différentes heures? L'histoire lire Matthieu 20, 1 à 15. Dans la Palestine du temps de Jésus, l'embauche d'ouvriers journaliers par un propriétaire de vignes faisait partie de la vie de tous les jours. Et pourtant, certains détails de cette histoire sont si inhabituels qu'ils ont dû étonner beaucoup les auditeurs. Considérons certains de ces détails dans chacun des quatre épisodes du récit. 1. L'embauche des ouvriers, versets 1 à 7. Le jour chez les Juifs commençait au lever du soleil et il était divisé en 12 heures. Ainsi, le maître de maison se rend 5 fois sur la place pour chercher des ouvriers, à 6 heures, à 9 heures, à 12 heures, à 15 heures et à 17 heures. Or, la journée de travail finissait à 18 heures. Si l'embauche de journaliers à 6 heures du matin concorde avec la réalité quotidienne, les embauchages suivants deviennent, au fur et à mesure qu'avance le jour, de plus en plus étonnants. Il n'était pas conforme aux pratiques courantes de chercher encore d'autres travailleurs une heure seulement avant la fin de la journée. C'est que Jésus avait besoin, pour son enseignement, d'équipes fournissant un travail inégal. 2. La paix, versets 8 à 10. Il est remarquable que le maître prescrit de commencer la paix par les derniers ouvriers engagés. Cet ordre est nécessaire pour préparer la déception des premiers ouvriers. Ce n'est qu'en voyant les derniers ouvriers recevoir un denier que les premiers s'attendent à toucher plus. 3. Le murmure des premiers ouvriers, versets 11 à 12. On ne peut guère s'empêcher de partager l'indignation des ouvriers qui se sentent lésés. La plus grande durée et la plus grande difficulté de leur travail ne leur donnent-elles pas droit à un salaire plus élevé? Est-ce juste de donner un même salaire pour des quantités de travail différentes? C'est la conduite apparemment injuste du maître qui a dû surprendre le plus les auditeurs. En s'associant au point de vue des premiers ouvriers, on tombe dans le piège. Jésus prépare ainsi les auditeurs pour la réponse du maître qui leur fera comprendre en quoi ce point de vue est erroné. 4. La réponse du maître, versets 13 à 15. Le maître défend la parfaite justice de sa conduite. Étant donné qu'il a respecté son contrat avec les premiers ouvriers, de quoi peut-on l'accuser? De disposer comme il veut de ce qui lui appartient de droit? D'exercer la bonté envers ceux qui n'avaient pas de travail? Ce qui, à première vue, a paru injuste était en réalité parfaitement justifié, non seulement parce que conforme au droit légitime du maître mais aussi comme acte de compassion. C'est justement sur la réponse du maître que porte l'accent du récit. Toute la mise en scène est construite de manière à démontrer la justice de son comportement qui pourtant avait, à première vue, paru injuste. La parabole veut donc amener les auditeurs à juger la situation décrite non pas du point de vue erroné des premiers ouvriers mais du point de vue juste du maître de maison. Le contexte plus peut-être que tout autre, cette parabole a besoin d'être examinée dans le cadre des circonstances qui l'ont vu naître. Ayant quitté définitivement la Galilée, Jésus se rend à Jérusalem pour être livré et crucifié. Il rencontre alors un certain chef du peuple, Luc 18h18, qui, bien que cherchant la vie éternelle, est trop attaché à ses richesses pour y renoncer afin de suivre Jésus. L'attitude du jeune chef riche est pour le Christ l'occasion d'un nouvel enseignement sur l'obstacle que constituent les richesses pour entrer dans le royaume, voir aussi Matthieu 6h24, Luc 6h20-26, midi 13h34, etc. Lire Matthieu 19h23-30. Relevons de ce passage les éléments susceptibles d'orienter notre interprétation du récit. 1. La difficulté pour les riches d'entrer dans le royaume messianique. Cette déclaration de Jésus doit être rapprochée des nombreux passages indiquant que les bienfaits du règne à venir seraient refusés aux juifs qu'on estimerait au premier abord les plus dignes de les recevoir, aux riches, aux grands, aux justes, aux sages, aux chefs, aux bien-vus. Le règne serait donné plutôt aux humbles, aux petits, aux pécheurs, aux pauvres, aux méprisés. 2. L'étonnement des disciples. On pensait généralement dans le judaïsme que les richesses matérielles étaient la récompense des justes. Les disciples semblent en tout cas avoir estimé les membres de la classe dirigeante et riche comme étant des candidats de choix pour le règne. Marc 10h24, 26, les disciples étaient stupéfaits par ces paroles, et se disaient les uns aux autres, « Alors qui peut être sauvé ?» Leur stupéfaction est d'autant plus grande que les membres de cette classe étaient, ou au moins donnaient l'impression d'être, scrupuleusement fidèles à la loi et aux règles de la pureté légale. C'est comme si l'on disait aujourd'hui à un catholique que le pape, les évêques et tous les curés seraient exclus du ciel. 3. La question de Pierre. Les paroles dures de Jésus provoquent la question suivante, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous ?» D'après la réponse de Jésus, cette question semblerait inspirée non pas par une certaine suffisance ou un esprit de marchandage de la part de Pierre, mais par une véritable inquiétude. 4. La réponse rassurante de Jésus. Contrairement aux riches et aux notables juifs, les apôtres connaîtraient bientôt la joie non seulement d'être admis dans le royaume mais aussi d'y partager l'autorité du Christ. Le mot renouvellement désigne ici les temps messianiques, l'époque où le Christ serait assis sur le trône restauré de David pour régner sur les 12 tribus d'Israël. Ce temps était alors proche, Jésus certifie aussi la récompense de tous ceux qui l'auront suivi, ils jouiront pleinement des bienfaits du royaume de Dieu. Luc midi 32, 60 crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. 5. La sentence qui termine la réponse de Jésus. Matthieu 19h30, Bible de Jérusalem, beaucoup de premiers seront derniers, et de derniers premiers. L'accent porte sur le mot beaucoup, nombreux seront ceux qui, privilégiés et considérés aujourd'hui, seront, lors de l'avènement du règne, jugés différemment, nombreux seront ceux qui, pauvres et méprisés aujourd'hui, seront alors jugés différemment. C'est pour expliquer et justifier ce renversement de jugements humains que Jésus propose cette parabole. En effet, celle-ci est encadrée par la sentence de Matthieu 19h30 qui lui sert d'introduction et de conclusion. L'application originelle, on peut aborder de deux manières cette parabole difficile, soit comme une allégorie où il faudrait donner à chaque détail une signification symbolique, soit comme une comparaison où on ne relèverait que la leçon principale. Selon l'interprétation courante aujourd'hui, il s'agirait d'un enseignement allégorique sur l'égalité des récompenses au ciel. Le maître de maison, c'est Dieu, la vigne, son royaume, les ouvriers, ce sont les hommes convertis à des âges différents de la vie, fournissant ainsi des sommes différentes de services. La paix, c'est le jugement dernier, l'intendant, le Christ, le denier, la vie éternelle. Ainsi tous les élus recevraient la même rétribution céleste, il n'y aurait pas lieu de se plaindre. Que cette doctrine soit vraie ou non, ce n'est pas la leçon de la parabole. Car selon cette interprétation, les premiers ne deviennent pas les derniers, tous reçoivent la même récompense. Cette allégorisation a aussi l'inconvénient de faire complètement abstraction du contexte dans lequel Jésus a prononcé la parabole. Au lieu de chercher des applications allégoriques, il vaut mieux essayer simplement de dégager la vérité centrale et l'appliquer à la situation de Jésus et de ses auditeurs immédiats. Jésus lui-même énonce la leçon dans Matthieu 20h16. La difficulté consiste à accorder cette sentence avec la parabole, alors qu'elles ne semblent pas correspondre l'une à l'autre. Les observations suivantes, je l'espère, nous aideront. 1. Le sens de premiers et derniers. Dans la sentence de 19h30 et 20h16, ces termes ne désignent pas un ordre d'entrée ni un rang occupé dans le règne, il s'agit plutôt de l'admission même dans le règne. Autrement dit, les derniers devenus premiers sont ceux qui entreront dans le royaume, les premiers devenus derniers sont ceux qui en seront exclus. Voilà justement le sujet traité dans le contexte de Matthieu 19h16-30, l'exclusion des riches et l'admission des disciples. Cette sentence se trouve dans un autre contexte, où elle a exactement le même sens. Luc 13h23-30, quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, restez dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire, « Seigneur, ouvre-nous » il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous commencerez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il vous répondra en disant, « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous, qui commettez l'injustice. Il y aura là des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Israël avait été l'objet des promesses messianiques, mais tout Israël n'entrerait pas dans le royaume. Car la porte était étroite et peu de Juifs répondaient à l'appel de Jésus. Les autres, les incrédules, les premiers devenus derniers seraient exclus du festin messianique, ils seraient laissés dehors et repoussés par le maître de maison. À leur place le petit troupeau de Juifs croyants et les païens participeraient avec les patriarches et les prophètes au royaume de Dieu. La sentence ne comporte donc aucune notion de temps ou de rang, elle oppose seulement ceux qui seront admis et ceux qui seront exclus. Il en est de même dans Matthieu 21h31b32, « En vérité je vous le dis, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les péagers et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Parmi les Juifs, les docteurs, les scribes, les pharisiens, les grands prêtres, les anciens, croyaient bien qu'ils seraient du nombre des élus. Leur connaissance de la loi, leur position dans la société semblait devoir leur garantir une place dans le royaume. Mais Jésus leur dit que les péagers et les prostituées les y devanceraient. Ce verbe n'exprime pas ici une priorité chronologique. Les pêcheurs n'auraient pas une certaine avance sur les chefs du peuple, ils prendraient leur place. Les chefs incrédules et endurcis seraient exclus, les pêcheurs repentis seraient admis dans le règne. 2. La perception du denier. Étant donné que les derniers sont ceux qui ne reçoivent pas le royaume, on ne peut guère identifier allégoriquement la perception du denier avec l'entrée dans la vie éternelle, car tous les ouvriers, les derniers aussi bien que les premiers, y seraient admis. Ainsi ce n'est pas le fait lui-même d'être admis ou exclu qui est illustré par la parabole, celle-ci suppose mais ne décrit pas l'exclusion des derniers et l'admission des premiers. Jésus a déjà indiqué qui serait exclu et qui serait ennemi. C'est pour répondre à la stupéfaction des disciples que Jésus raconte la parabole, c'est pour leur montrer la justice de Dieu dans l'exercice souverain de sa bonté. 3. Les ouvriers. Beaucoup d'auteurs ont vu dans cette parabole une condamnation des pharisiens, représentée par les premiers ouvriers, qui se scandalisaient de l'amitié que témoignait Jésus pour les pécheurs, représentée par les derniers ouvriers. Jésus aurait bien pu penser à ces deux groupes en construisant son récit. Mais il ne faut pas oublier que la parabole est adressée aux disciples et non pas aux pharisiens. Tous ces éléments, les ouvriers, les murmures, font simplement partie de la mise en scène. Ils ne servent qu'à créer une certaine correspondance entre les idées erronées qui ont provoqué la stupéfaction des disciples et les idées erronées qui provoquent l'indignation des premiers ouvriers. C'est que les disciples, comme les premiers ouvriers, ont jugé l'action de leur maître du point de vue humain et non pas du point de vue divin. Si Dieu exclut du royaume les juifs qui, selon l'opinion générale, y avaient le plus droit, et s'il admet au royaume les juifs qui, selon l'opinion générale, ne méritaient que le mépris, c'est que Dieu a raison et l'opinion générale a tort. En somme, cette parabole est la justification de la liberté divine de distribuer ses bénédictions, non pas selon les mérites ou les droits supposés des hommes, mais selon sa bonté souveraine. Paul exprime la même idée dans un autre contexte, Romains 9:14-16-18, « Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Certes non. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Ainsi cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Virgule ainsi il fait miséricorde à qui il veut. Si Dieu, en accordant ou en refusant l'accès à son règne, renverse souvent le jugement des hommes, nul ne saurait y trouver à redire. Car Dieu ne doit rien à personne. Tout dépend de sa bonté et de son droit légitime de faire ce qu'il veut avec ce qui est à lui. La leçon de la parabole pourrait donc être ainsi formulée, de même que le maître de maison agit en toute justice lorsqu'il accorde, par bonté, un salaire aussi élevé à ceux qui ont travaillé une heure qu'à ceux qui ont travaillé toute la journée, de même Dieu, sans jamais manquer à la justice, a le droit de donner le royaume à qui lui plaît. Leçon secondaire 1. La souveraineté de Dieu est absolue, personne n'a le droit de juger ou de mettre en question ce que fait le Tout-Puissant. 2. Dieu nous bénit non pas à cause de nos mérites mais selon sa bonté. 3. Cette parabole nous invite à ne pas nous scandaliser de la grâce de Dieu envers ceux que nous jugeons indignes de la recevoir.